penser et dire sa foi. Une émission proposée par Jean-Michel Poirier. Penser et dire sa foi, en dialogue avec des enseignants de l'Institut catholique de Toulouse pour mieux comprendre et communiquer la foi chrétienne.
Bonjour chers auditeurs, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle série de 4 émissions avec, pour dialoguer avec moi, Mireille Olympe Cazot. Bonjour Mireille.
Bonjour Jean-Michel.
Voilà, vous êtes étudiante à l'IERP dans le parcours de l'Institut supérieur de sciences religieuses qui prépare donc un baccalauréat canonique en sciences religieuses. Et il se trouve que vous suivez en ce moment un cours avec moi sur le Pentateuque.
Et oui, c'est un grand plaisir pour tout le monde parce qu'on croit connaître et en fait on ne connaît rien. Mais avec le père Poirier, on arrive à s'améliorer.
Alors il se trouve que j'ai pensé que le mois de mars se terminant par la fête de Pâques, et comme souvent à la vigile pascale, on commence par entendre le premier texte qui ouvre la Bible. On pourrait parler de, non seulement de ce premier chapitre, mais aussi des deux chapitres qui suivent, chapitres 2 et 3. Donc tout d'abord la création en 7 jours, et puis ensuite l'histoire d'Adam et Ève. Alors, je vous laisse introduire, parce que c'est vous qui allez dialoguer avec moi.
Bon, ben on a souvent relevé dans Genèse 1 son caractère architectural, sa caractéristique de chant scandé avec 16 strophes et un refrain. On a souligné également cette vision intemporelle. Et moi, la question que je voudrais vous poser, comment se fait-il que ce chapitre en particulier ait tellement de succès auprès d'un lectorat très diversifié, bien que délivrant une vision qui ne peut pas se situer particulièrement dans un temps?
Alors, quand vous dites que ça ne se situe pas dans un temps, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, puisque précisément, il rythme l'ensemble de l'action sur une semaine. Alors, évidemment, sauf pour les fondamentalistes, notamment américains, qui pensent que Dieu a créé le monde en 7 jours de 24 heures, nous voyons bien que nous avons affaire à une forme littéraire, hein, mais qui le situe précisément dans le temps, avec un développement. Hein. Alors pourquoi est-ce que ce texte a autant de succès? Peut-être d'abord parce que c'est le premier texte de la Bible, donc quelqu'un qui commence par lire la Bible, il commence par ce texte-là. On ne pourrait pas dire la même chose de l'ensemble des chapitres du Lévitique, par exemple.
Pourtant, ce que l'on stigmatise dans notre société, qui est issu d'une réalité, d'un fait, c'est que les gens ont tendance à picorer un petit peu dans tous les sens. Or, oui, la Genèse laisse des souvenirs particulièrement...
Oui, mais ce premier texte, vous voyez, encore une fois, si on veut lire un livre, on commence généralement par le début, quitte à picorer par la suite. Puis j'ajouterai une autre chose, c'est que ce texte-là, ainsi que d'ailleurs le texte qui suit, qui est célèbre ô combien, puisque c'est le récit d'Adam, d'Ève, ce qu'on appelle le péché originel, etc., a été maintes et maintes fois représenté dans la peinture, dans la mosaïque, dans l'iconographie plus largement, voire même dans la sculpture, si bien que, ou encore récemment, je visitais une basilique à Saintes, et il y avait des tapisseries inspirées par ce premier texte du livre de la Genèse. Si bien que, voilà, personne qui visite un peu, qui s'intéresse un petit peu à l'art, à un moment ou à un autre, va tomber sur ces représentations assez classiques.
Alors, il faut dire également que la Bible est inspirée de mythes et que nous descendons tous de mythes, c'est-à-dire le mythos en grec qui peut se traduire comme mensonge, comme faux. Mais le paradoxe, c'est que finalement, il délivre toujours d'immenses vérités et qui ne changent pas, quelles que soient les époques. Alors, pourriez-vous nous expliquer quelle est la différence maximale entre précisément ce qui précédait l'écriture de la Bible, c'est-à-dire tous ces mythes antiques, et ce que nous délivre ce livre en particulier, qui n'est pas d'une époque en particulier, vous l'avez bien dit tout à l'heure, mais qui s'adresse à un lectorat très étendu, quelles que soient les générations.
Alors tout d'abord, le mythe est un genre littéraire qui permet de véhiculer ou de transmettre certaines parts de vérité, on pourrait dire, mais le mythe ne doit pas être pris au pied de la lettre. Hein. Mais le mythe est inspirant. et a inspiré de nombreuses. Enfin, dans les cultures, c'est extrêmement inspirant. Et ça permet de dire des fondamentaux, notamment, souvent des fondamentaux. Et donc, les 11 premiers chapitres de la Bible utilisent beaucoup de mythes dont on trouve effectivement des parallèles dans les cultures, on va dire, du Proche-Orient ancien. Alors, on a pas mal de mythes nous racontant la création du monde, la création des humains, mais on n'a pas tout à fait l'équivalent de ce premier récit, justement, qui est, comme vous l'avez si bien dit au début, extrêmement bien architecturé, avec ses refrains, etc. Donc là, mythe, oui et non. Je parlais plus de mythe pour Genèse 2 et 3. Mais c'est une manière, encore une fois, de nous communiquer quelque chose, mais par un certain genre littéraire. La fable aussi est un genre littéraire et qui nous communique aussi une certaine part de vérité.
Alors il y a quelque chose également qui attire beaucoup le lecteur, je parle en connaissance de cause, c'est cette magnificence liée à l'harmonie, à la beauté et à la générosité. On retrouve également des éléments qu'on a étudiés chez les philosophes anciens, comme avec les transcendantaux, chez Platon, etc., le bon, le bien, l'unique. Mais quelle est la différence précisément entre ce message délivré par les anciens et la Bible? Qu'y a-t-il d'original, justement?
Alors, dans le récit dont nous parlons aujourd'hui, il y a effectivement, vous l'avez souligné, une architecture qui, lorsqu'on l'examine de près, est extrêmement savante. On a parfois l'impression, bon, il y a 7 jours. En fait, les 7 jours ne se déroulent pas exactement de la même façon. Il y a des refrains, il y a des, par exemple, vous avez 10 paroles qui sont réparties sur 6 jours. Le 7e jour, Dieu, ne parlons pas. Et donc, vous voyez bien que 10 divisé par 6, ça ne donne pas un chiffre rond. Il y a effectivement des récurrences, mais avec des variantes ou des variations. Et ce qui se dégage de l'ensemble, c'est une architecture, comme vous l'avez dit, savante, mais que je qualifierais aussi de complexe. Or, ce que cherche à nous transmettre ce texte, c'est d'abord cette conviction que le monde, l'univers dans lequel nous vivons ou que nous pouvons observer, eh bien que cet univers, il a un certain ordre, une certaine architecture, mais qui est complexe. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas du tout contradictoire avec, par exemple, les données de la science, puisque les données de la science nous disent que nous vivons dans un univers qui est d'une complexité quasi infinie et dont nous ne finissons jamais de découvrir des nouveaux aspects.
Vous avez parlé de ordre. Je pense que c'est un des termes clés de la Genèse. Par sa polysémie, l'ordre veut dire classifier, séparer les éléments. Et on voit bien qu'au début de la Genèse, en Genèse 1, Dieu sépare les eaux du ciel, puis les eaux salines, des eaux douces, etc. Et nous-mêmes, nous devons en tirer un entendement, pour parler comme les Grecs anciens, mais cet entendement qui nous demande de classer nos idées, de ne pas substituer à l'idée de distinction, pour faire allusion à cet arbre du bien et du mal, distinguer le bien du mal, et confusion. À partir du moment où on sème la confusion et le désordre, va rentrer le mal et le péché, puisque le mal n'est pas une entité en soi, elle est plutôt quelque chose de manque, de désorganisé. Elle est de ce côté-là. Et ce mot d'ordre m'intéresse au plus haut point, parce qu'on a bien remarqué dans la vie, si on n'a pas d'ordre, on ne peut pas y arriver, quel que soit le genre.
Alors, vous avez évoqué les notions de péché. Celle-là, nous allons la voir dans Genèse 2-3. Mais dans Genèse 1, il n'y a pas de péché. Mais en revanche, vous faites bien de dire que vous avez mentionné l'œuvre de séparation. Effectivement, la création s'opère à partir d'un chaos où tout est un petit peu mélangé, et le tohu-bohu. Hein, et les, petit à petit, les choses vont apparaître d'abord, effectivement, par une œuvre de séparation. D'abord entre la lumière et puis les ténèbres. Ensuite, entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, et puis ensuite au niveau de la terre, entre ce qui est sec, la terre sèche qui va se dégager, et puis l'amassement des eaux qui va former les mers. Et puis ensuite, on va avoir le couronnement de cette œuvre de séparation, si je puis dire, ou plutôt le point final, avec les luminaires, le grand, le petit et les étoiles, qui vont permettre de fixer un certain ordre, l'ordre temporel, l'ordre des semaines. Ben voilà, chère Mireille Olympe, nous voici arrivés au terme de la première émission. Et nous donnons rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour poursuivre notre dialogue précisément sur ce texte-là et sur celui qui suit.